France Inter.
C'est la bande originale, figurez-vous, avec Leïla, comme vous a dit, Lisa, Del Moitié, Maudy Fontaine, Tristan Lopin, Paul Delas, Daniel Morin, Tanguy Pasturo et nos invités,
qui
Virginie Hoc et Samuel Lamar.
France Inter. Bande originale, Leïla Kaddour et Nagui. Ah,
bienvenue Virginie, bienvenue Samuel, qu'est-ce qui se passe Samuel?
Non, c'est on se présentait.
Ah, bah, vous connaissez pas, alors Virginie Hoc, je vous présente Samuel là-bas,
Il me fait toujours ça. Tous les jours au tournage, il ne sait plus qui je suis.
Flair de famille, l'histoire d'un frère et d'une sœur qui font des enquêtes de police. Ouf, le troisième volet de cette série arrive vendredi en 8, pas demain mais vendredi prochain. Nous serons le 7 février, ça sera sur France 2. Et pour voir si vous avez du flair, Virginie, Samuel, pour voir si vous êtes de bons
enquêteurs,
nous allons vous affirmer des choses autour de cette table.
Voilà. D'accord.
D'accord. Et vous devrez deviner si c'est vrai ou si c'est
d'accord.
faux.
Par rapport à notre personne ou dans le monde en général?
Non, par rapport à la vie. Par exemple, Lisa Del Moitié va vous affirmer quelque chose.
D'accord.
Vous avez droit chacune à une question.
Okay.
Et on va voir qui gagne, qui est le meilleur.
Mais le tour de table ne réagit pas. On réagit pas.
Ah non, nous, on n'a rien à dire. Ce sont eux les enquêteurs.
Okay. Jamais la fève. Okay. Sachez-le.
Ah bah ça tombe bien, c'est le surnom de Lisa.
C'est un truc. Oh là là.
On ne développe pas.
Quelle est ton affirmation,
alors,
Lisa?
Je n'ai jamais la fève, encore un mot de passe.
Je n'ai jamais la fève.
Quoi?
C'est bon, tu peux rentrer.
La fin de.
L'envoi.
J'allais dire Maréto, mais
touche.
Non, c'est la terminale à la fin de.
Moi, Maréto, j'ai compris. Pour moi, tu peux.
À la fin de l'école avant les études supérieures.
Du lycée, donc.
Oui, voilà, du lycée. J'ai fait un an d'échange aux États-Unis.
Ah oui.
Ah non, oui. Mais pose une question, Virginie, avant de.
Ah oui, oui. Ah ben, moi, c'est comme ça que je fais. Hein. Si je me dis, je dis oui, c'est vrai, oui. Vous êtes coupable.
Okay. C'est-à-dire que là, tu Virginie Hoc sait déjà si elle ment ou pas.
Tu as fait un Erasmus.
Non, c'était Erasmus, c'est l'université.
Avec
mais c'était avant le.
Ah, à quelle école étais-tu?
Là-bas?
Oui.
J'étais à Savannah, en Caroline du Nord.
Non, pas du tout. Avec quelle école tu es partie depuis la Belgique? Puisque tu es belge, non?
Oui, là, tu es de Nivelles.
Avec Nivelles?
Ouais.
Ça m'étonnerait qu'avec Nivelles, nous partions à Savannah, en Californie.
Enfin, mes parents ont dû payer, c'était pas payé par l'école.
Samuel Labarre, vous avez une question ou pas? Ou vous avez une intime conviction sur la.
C'est vrai ou c'est faux?
La vérité.
Bravo.
Merci.
Il fallait trouver le.
L'endroit, ouais.
L'endroit, pas évident.
On va aller un tout petit peu plus vite parce qu'on va faire tout le monde.
Là, juste on n'a pas beaucoup de temps.
Non, si vous voulez qu'on parle,
je dirais oui parce que j'y crois.
Alors, Samuel y croit, Virginie?
Non,
pas du tout.
Ah, plus.
Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux?
C'est pas vrai.
C'est pas vrai.
Elle était à Nivelles.
Un point pour Virginie.
Mais je vous ai dit, j'ai jamais la fève.
Attention. Tristan.
Moi, ce matin, j'ai failli être en retard parce qu'il y a eu un malaise voyageur dans la ligne 9 et j'ai pris un Vélib depuis Opéra et je me suis fait arrêter par les flics parce que j'ai pris un contresens et ils m'ont reconnu et du coup, ils m'ont laissé passer.
Virginie Hoc, Samuel Labarthe, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux?
Avec
non, pas du tout.
Toutes les informations.
Oui, vraiment, je viens d'arriver là.
Il y a
plusieurs informations.
Oui. Il y a plusieurs informations.
Elles sont toutes fausses.
Il peut y en avoir des vraies et des fausses.
Oui, c'est ça qui est malin.
Ah, bah.
Alors, malaise voyageur, est-ce que vous avez une formation de secouriste?
Pas du tout.
Donc, vous n'avez rien fait. Vous avez laissé crever.
Non, j'ai absolument rien fait. Puis, de manière générale,
il ne fait jamais rien.
Samuel?
Alors, moi, j'y crois parce que je sais qu'il y a eu des retards ce matin.
Ok.
Sur la ligne.
Donc, Samuel y croit.
Après, est-ce qu'il a été arrêté en contresens par la police?
Il y a des choses vraies et des choses fausses dedans.
C'est la malice. Tristan?
Alors, c'est vrai, mais je n'ai pas été arrêté par la police.
Et voilà. Et voilà.
Donc, c'est faux. Donc c'est faux. Donc, un point pour Samuel. Un point
pour. Tu as dit que c'était vrai. Il a dit que c'était vrai.
Mais pas la police, il a dit.
Pas la police.
Mélodie.
Moi, j'ai fait un ping-pong avec Muse.
Ouais, le groupe, oui.
Tout le groupe.
Seul contre.
Et qui a gagné?
C'est une tournante.
J'ai fait une tournante avec Sion.
C'est vrai qu'au ping-pong, on dit une tournante.
Oui, c'est vrai. J'ai pas dit le mot.
Non, bah, pardon.
Alors,
j'ai un chat.
Tennis de table. Comment?
Virginie, une question ou une affirmation?
Et alors?
Vous pensez que c'est vrai ou pas?
Une petite question. Dans quel cadre?
Dans quel cadre? Dans le cadre du boulot. Parce que j'étais assistante prod au Zénith de Lille.
Et ils n'avaient rien d'autre à faire à ce moment-là, du coup ils ont fait un petit ping-pong.
Okay. Et l'équipe, c'est combien de personnes?
Trois.
Trois.
Samuel,
ça reste encore. Moi je dirais oui.
Virginie?
Allez, non. Je fais tout différemment que mon frère.
Oh joli, Samuel! Ah, temps.
C'est comme ça que t'as démarré, ma belle.
Oui, oh là là.
C'est normal, c'est ma petite sœur, elle apprend.
En tout cas, pour l'instant, Samuel Labarthe est en tête. Oui. Leïla.
Quand j'étais étudiante, j'ai été sélectionnée pour faire partie d'un jury. Le jury, on appelle ça un jury criminel en France, pour un procès d'assises. Mais
ah oui.
Mais je n'ai pas pu y participer parce que je connaissais l'accusé.
Il me semble que vous avez déjà raconté cette anecdote, non ?
Alors, une question.
Vous écoutez l'émission en plus, c'est
vous
ça ?
Vous aviez quel âge ? Oui.
J'avais 22 ans.
Samuel ?
Oui, ça paraît très crédible, je ne sais pas pourquoi. Mais...
Est-ce que c'est vrai ?
C'est alors, vrai.
Non, c'est faux.
Elle ment bien.
Celle-là pour une journaliste, celle-là.
Je joue.
C'est de la désinformation.
Oldelaf.
Oh, attends, pardon, personne n'a douté sur le fait que je connaissais l'accusé quand même.
Non, personne.
Bah non, mais parce que.
Non, c'est pas ça. C'est ton ton est
non, oui. C'était un ton tellement évident. C'était le ton de la vérité.
Oldelaf.
Eh bien, moi, j'ai mon demi-frère qui est maire d'une grande ville française.
Son demi-frère est maire d'une grande ville française. Ah bah attends, c'est pas à toi de poser des questions.
L'enquête est menée.
Non.
Ce que vous faites,
c'est flair de famille. Ok. Oui. L'enquête est menée par Virginie et Samuel.
J'ai le nez un peu bouché.
Virginie.
Est-ce que oui. Alors une petite question. Donc oui. Oui, de quelle ville?
Montpellier.
Ah le maire de Montpellier. Et Samuel.
Montpellier. Montpellier.
Ouais. C'est son demi-frère.
Oui. Ah ouais. Votre demi-frère.
Oui.
C'est pas de question.
C'est toujours votre demi-frère.
C'est toujours actuellement mon demi-frère.
Il n'y a pas de nouvelles.
Pensez-vous que ce soit vrai ou faux ?
Allez, je vais dire vrai, Oldelaf.
Moi, je dis vrai aussi.
Mais c'est faux.
Mais c'est faux.
Mais
c'est
voilà.
Je l'ai entendu à la radio hier.
C'était Grenoble.
Mais c'est mais c'est Michael Delafosse, mais c'est pas du tout mon.
Ah, c'est pas ton demi-frère. Daniel Morin.
Alors, c'est pas gentil parce qu'il y a eu des exemples. J'ai des profs de yoga.
Chemise.
Non mais justement, ça va avec.
Ne le touchez pas, Virginie. Ça peut être dangereux.
Contagieux.
Il dit, j'étais prof.
J'étais prof de yoga.
Virginie,
dans une autre vie.
Dans celle-là qui est déjà longue.
Est-ce que vous pouvez toucher vos pieds déjà?
Je le souhaite à personne.
Oh, la violence de la question.
Non, c'est vrai.
Parce que ça sous-entendait, je suis en train d'observer votre physique.
Non.
Êtes-vous capable?
Pas du tout.
J'aurais dû dire, pouvez-vous encore toucher vos pieds?
Ça dépend quelle partie je penche.
Moi j'ai une vision.
Samuel?
Le guerrier? Le guerrier, non, pas le guerrier, c'était pas ma spécialité. J'étais plutôt chien tête en bas.
Ah oui, le
guerrier. La position du corbeau.
C'est dur, hein, chien tête en bas.
Salutations au soleil, pranayama.
Ouais.
D'accord.
Ah bah dites-moi, oui, allez-y, dites-moi.
Trop tard.
Allez, laisser le bénéfice du doute.
De toute façon, j'ai envie que je gagne aujourd'hui. Je dis faux.
Alors, faux pour Samuel, vrai pour Virginie.
Ça veut dire qu'il a été regardé beaucoup de vidéos, hein. Il a été maté du yoga, quoi.
Il passe sa vie à ça.
Une histoire. C'est vrai.
Ah ouais,
C'est au Club Med.
Ah ouais. C'est pas un vrai prof, alors.
Ouais.
Tout le monde est prof au Club Med.
Écoutez, vous êtes à égalité.
Et toi ?
La dernière sera donc la mienne.
Ah ouais.
J'ai organisé un concert avec Patrick Bruel et Prince à l'affiche.
Vous êtes capable de tout, c'est ça qui est terrible avec vous.
Patrick Bruel et Prince.
Patrick Bruel et Prince. C'est pas à toi de répondre, c'est à Virginie.
Je réfléchis.
Quelle année?
85.
Oui, bon, c'est une autre question, parce qu'il est temps de réfléchir. Mais...
C'est terrible parce que j'ai l'impression d'avoir les images.
Donc...
Alors, vrai ou faux?
Mais je pense que c'est vrai.
On n'a pas posé beaucoup de questions, n'empêche.
On ne sait pas si on doit aller vite ou pas.
Ah, oui, vous n'avez pas.
Et alors,
Donc vrai pour Samuel.
Est-ce que Patrick a chanté avec Prince?
Non.
Ah, ils n'ont pas chanté. Ils étaient sur la même scène.
Oui.
Et ils ne se sont pas rencontrés.
Un gala où chacun passait.
Prince voulait, mais Patrick voulait pas.
Ah, donc il y avait plusieurs chanteurs. Quels autres chanteurs?
Bernard Lavilliers, Ricky Lee Jones et Chagrin d'amour.
Chagrin d'amour.
Ricky Lee Jones.
Oh, mais c'est beaucoup de précision. Ah, vous, si, c'est vrai.
C'était dans quel cadre?
Ou si c'est faux, vous mentez beaucoup.
Pourquoi?
C'était l'inauguration d'une salle de spectacle dans un casino à Cannes.
Ouais, ça n'a pas dû être déclaré, ça.
Ah oui. Je peux même...
Casino, Cannes, Maggie.
Je peux même rajouter Philippe Bouvard et Michel Drucker étaient dans le public.
Waouh. Oh, donc, j'ai envie de dire que c'est faux, il y a trop d'infos.
Oui, il y a trop d'infos.
C'est totalement faux. Ah, allez, c'est Virginie qui a gagné.
Oui, c'est ça.
Yeah.
Bravo. 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 Bravo
Et bouché. Où est ma banderole?
Mais voilà, flair de famille. L'enquête policière.
Mais on se complète parfaitement.
Mais oui, je trouve aussi, même si Samuel Sam a un malin plaisir à dire l'inverse de Virginie, je me demande si c'était pareil sur le tournage. On va parler de cette série, c'est le troisième volet de cette série. Celui qui est totalement fan de vous est là, c'est Monsieur Holden.
Oh oui, oui, oui.
Et Samuel là-bas.
Je suis fan de Virginie Hoc. Je suis fan depuis que je fais du rock. Pourtant avec Samuel vous vous êtes trompé d'époque. Votre duo est plus classique, Bella Bartok. Je suis fan de Samuel Labarthe. Il peut tout jouer, même jouer à Mario Kart. On l'a vu en De Gaulle, de Villepin et Mitterrand. Il fait mieux le président que celui qu'on a maintenant. Et vous venez pour la série Flair de famille. Ça parle d'un frère, d'une sœur dans la région d'Abbeville. On voit une famille du Nord sous un nouveau jour. En vrai, ça aurait fait une belle histoire d'amour. Je suis fan de Virginie, de l'actrice, pas de l'État-Uni. Moins fan des States de toute façon depuis janvier. Désolé oncle Sam, mais je crois pas que j'irai la Barthe. Depuis Trump, c'est trop sauvage. Il y a des nazis, moi j'ai plus l'âge. Je vais plutôt rester par là. Juste ma sœur et moi, on a tant d'amour à flair, tant de bonheur en famille. Je te veux mari et père, comme toutes mes amies à Abbeville. Et si nos enquêtes avancent, si l'assassin est bouclé, je t'emmène au resto, je pense, manger un bon maroilles pané. Yeah, yeah, yeah. Ouais, je suis fan de Virginie et Samuel. Et j'étais élève de yoga de Daniel. Vous êtes nos invités, on vous fera pas de mal. Bienvenue à vous avec la bande originale.
Magnifique.
L'école de yoga de Daniel.
Il a tout fait.
Cotisons-nous, faisons un truc.
Ah, je vais finir par vous donner des cours, vous allez voir. À noter que l'album Saint-Valentin cartonne toujours autant.
C'est vrai.
Et il faut noter que le clip de Saint-Valentin est un chef-d'œuvre d'animation en ligne. C'est tout ce qui se dit, surtout de la part d'Oldelaf.
Vous me l'avez bien expliqué. Vous tapez Oldelaf Saint-Valentin.
Saint-Valentin, voilà. Et en vrai, c'est un chef-d'œuvre fait par Arthur Chase. Et si tous les auditeurs écoutent aujourd'hui, on gagne 1 million de vues, c'est dingue.
Allez!
Excuse-moi, c'est 2 millions.
2 millions, mais.
Oui, mais comme, déjà, renseigne-toi sur les audiences de l'émission.
Mais comme ils vont regarder en famille, tu vois, ça fera quand même un peu mieux, c'est pour ça.
Justement, en famille,
1 million d'écoute, on gagne 2 millions de vues.
Comment ?
Non, je dis, un million d'écoutes, on gagne 1 million de vues.
Oui, ah bah l'impact,
c'est maintenant qu'on parle, oui, absolument. Oui. Le fait d'écouter une chanson sur Internet rapporte des vues.
Ça rapporte des vues.
Vous avez raison. Marrant, tous les sens.
C'est mon frère.
Oui, c'est ça.
Il est brillant. Il y avait une émission, L'Oreille en coin, c'est ça ?
Oui, absolument, ici. Ouais, justement, le flair de famille, vous vous retrouvez donc dans cette série. En reprenant le rôle de Sylvie Testu qui était notre invitée dans cette
émission. Il y a quelques jours, pour la vérité.
Exactement, oui. Et voilà ce qu'on lui a demandé. Sylvie Testu, il s'est passé quelque chose de particulier dans le flair de famille ?
Grand blanc ?
Non.
Non, pas du tout.
Vous jouiez aux côtés de Samuel Labarthe et vous n'y êtes plus ?
C'était pas pour moi.
Voilà, la réponse de Sylvie.
Eh ben, elle est généreuse, c'est pas pour elle, elle le donne à sa copine Virginie. Et elle est contente, Virginie.
Non, mais c'est la première question.
Parce qu'il y a eu des problèmes d'agenda.
C'est un énorme succès en plus.
Mais ça sera plus grand encore.
C'était un succès. Et puis.
Donc pour rentrer dans le personnage, est-ce que vous avez visionné les deux premiers épisodes pour. Pas du tout.
Okay. Pas du tout visionné. Enfin, que je me... Mais non,
elle a juste changé de
coiffure. J'ai pas lu le scénar.
Je me suis dit, franchement, oui, les téléspectateurs vont se dire, tiens, elle est différente. Qu'est-ce qu'elle a changé, Sylvie ?
Il a le droit d'avoir deux sœurs.
Mais oui, non, mais surtout, il n'est pas dupe. Ils vont bien comprendre que le personnage a changé. Et puis, je me dis que c'est depuis la nuit des temps qu'en tant que comédien, on interprète des personnages qui ont déjà été joués. Donc, il leur
faudra un petit temps d'adaptation. Et les auteurs sont brillants puisqu'ils ont quand même mis cette petite phrase. Tu trouves pas qu'elle a un peu changé?
Bien
oh,
joué.
Oui, pirouette, malin, humour,
malin. C'est la coiffure.
Malin. Oui, la taille.
La tessiture.
C'est la réponse dans, tout, dans le film, oui. C'est la coiffure.
Ouais. Oh, vous avez tout regardé.
Là, ouais. Évidemment, ça commence par.
Vous êtes journaliste, mais efficace.
Ouais, je mens,
mais
elle connaît du monde à fleur et mérange.
Un chef d'entreprise est retrouvé mort. L'enquête vous emmène dans des maisons perchées, des cabanes,
oui,
en
les
tout
maisons
cas, avec
sont...
un début d'incendie, c'est ça, dont il est le patron. C'est le début de l'enquête. Qu'est-ce qui détermine finalement vos personnages? L'une est extrêmement dynamique sur le terrain, en mouvement permanent, et vous êtes plutôt le rêveur, proche de la nature.
En rêveur, non.
Vous admirez la nature, les animaux,
on peut contempler
les plantes.
Sans forcément rêver.
Oui, mais bon,
je suis contemplatif.
Plus lent,
je suis relié à la nature. C'est autre chose. J'ai un autre rythme.
Vous n'êtes pas dans le même tempo.
Je ne suis pas dans le même tempo. Elle vient du 9-3, 9-4, je ne sais plus quoi.
Du 9-3.
9-3. Elle est complètement speed, elle est hyperactive.
Elle aime les immeubles, elle aime la pollution, elle aime le bruit.
Elle aime le CO2. Moi, j'aime. J'aime le chlorophylle,
La campagne, les glands, tout ça.
L'odeur du purin.
Oui. Voilà. On est différents et complémentaires.
Oui. Alors qu'est-ce qui fait votre flair justement? Parce que il faut bien appuyer sur le nom de cette série. Oui, non mais.
Non, j'entends. C'est génétique. C'est une famille.
Ok.
Oui, de père de policiers, de père.
En fils et en fille donc. Oui. C'est une famille de policiers implantés dans la région depuis des générations. Et c'est quelque chose qui ne s'explique pas. C'est comme le talent, c'est comme le.
Et notre particularité aussi, c'est de régler les enquêtes en se chamaillant devant les inculpés, les coupables potentiels.
Vous
n'arrêtez
pas. J'adore ça. C'est-à-dire, ça donne de véritables scènes de comédie. Si vous êtes tous les deux pendant un interrogatoire, c'est presque l'accusé qui va dire excuse-moi, vous pourriez vous occuper de moi parce que vous prenez la tête tous les deux sur qui a fait quoi avant dans le passé. Vous réglez des comptes.
Et c'est toujours des petits trucs qui nous mènent à poser la question directe à l'accusé. Et c'est ce que j'aime. En fait, c'est le quotidien. Je crois quand on a des frères et des sœurs, il y a un moment, on n'a pas de filtre en famille. Et là, ils ne l'ont même pas en travaillant. Et en plus, ils n'ont pas forcément envie de travailler ensemble.
Et ça déstabilise les accusés. Oui,
je comprends. Tout à coup, vous êtes là dans un truc très solennel. Stratégie. Et puis, ouais, tu m'as poussé la dernière fois et je suis tombée dans la boue quand j'avais 4 ans. Je crois que ça déstabilise. Et c'est pas facile
à dire. Et c'est les chlemelets.
Non, mais dès qu'elle n'a pas son texte, c'est n'importe quoi.
J'ai pas étudié.
Non, mais ce qui est merveilleux, c'est qu'on utilise, en fait, le principe de l'enquête policière, dont on a fait un petit peu le tour, si je peux me permettre.
Pas totalement, visiblement. Il reste encore des choses à exploiter.
Mais depuis combien d'années on propose des enquêtes policières à la télévision? Et donc, on est obligé de passer par cette forme, ce style-là. On est obligé. C'est pas possible. On peut pas proposer autre chose. Donc, on va utiliser cette forme établie, cette forme contraignante, quelque part, pour dire d'autres choses. Et c'est ça que j'aime bien.
Oui,
on va détourner un petit peu.
La contrainte, finalement, dans l'écriture théâtrale, si on garde la règle des trois unités, et ainsi de suite, cette contrainte-là naît la bonne idée de trouver l'originalité. C'est le cas de cette série.
On essaye.
Qui sera et d'abord, et qui est en effet rythmée, amusante, divertissante, et qui a sa patte. C'est-à-dire que ça sort des autres policiers. Et la preuve, 4 millions et quelques...
ça, c'est avec Sylvie. Hein, premier... Ça, c'est pas encore avec moi. Ça, moi, je peux jurer de rien.
Ça sera 5. Ok, j'ai compris le message. Voici Lisa Del Boîtier. De retour des États-Unis,
Lisa. Ça va là.
Tu n'aurais pas fait une série comme ça sur
Non, il ne faut jamais travailler en famille. Moi, je ne veux pas que mes collègues soient aussi des gens qui m'ont vu en couche-culotte. C'est d'ailleurs pour ça que je refuse d'aller aux soirées de Tristan. Mais vos deux personnages, Virginie Hoc et Samuel Labarthe, sont frères et sœurs et travaillent ensemble à la brigade criminelle. On a dit jamais de la vie, je ferai ça. La seule chose plus dangereuse que de me dire Lisa, tu vas travailler avec ton frère, c'est de me dire Lisa, tu vas travailler avec ton frère et vous serez armés. Vraiment, l'enquête sur ce meurtre-là sera vite bouclée, hein, ça je peux te le dire. Après, là où ça peut être un avantage de travailler en famille, c'est que si ton frère te tape sur les nerfs, t'es motivé à boucler l'enquête plus vite. Hein. Si ton collègue te fait chier, tu t'éternises pas, c'est bien connu. Est-ce que je vous aime tous? Disons simplement que mes chroniques dépassent jamais 3 minutes, voilà. C'est parce que je suis excitée de vous voir, j'arrive pas à durer. Parfois, quand on essaye de tenir plus longtemps, je pense à un truc qui m'excite pas, comme Tristan en couche-culotte. Voilà, ça
et pourtant.
Et pourtant. Ok, bah, je m'abonnerai à ton OnlyFans. Et pour rendre la tâche encore plus compliquée, votre frère Virginie, donc vous, Samuel, on l'a dit, vous êtes fan de nature. Il faut qu'on en parle, parce que moi, je comprends pas les fans de nature. Voilà, c'est ceux qu'on appelle des biophiles, sachez-le. Je précise, parce que pendant bien trop longtemps, je pensais qu'un amoureux de la nature, ça se disait un naturiste. Je vous raconte pas le nombre de malentendus. Ouais, j'ai rencontré un gars, il est trop sympa, il est hyper passionnant. En plus, il me dit qu'il est naturiste, genre il aime trop les plantes et tout. Il va même dans des clubs de naturistes avec que des gens qui aiment la nature, comme Hugo Clément et Grand-mère Feuillage, et ben, je crois qu'il veut m'y emmener. Non, moi, je vais faire mon coming out, j'aime pas la nature.
Ah bon ?
Voilà. Enfin, je suis contente qu'elle existe, je comprends qu'elle est importante, mais pour moi, la nature, c'est comme la police, quoi. Je comprends bien que c'est elle qui régule tout et je lui dois encore la vie, mais enfin, moi, je la vois, mieux je me porte. Moi, j'ai une théorie, je pense qu'on doit vivre dans un environnement qui est contraire à notre tempérament. Moi, j'ai des amis hyperactifs avec une énergie de malade, ça leur fait un bien fou une semaine en forêt. Mais moi, naturellement, j'ai une énergie de tronc d'arbre. Hein. On m'appelle la souche. Donc, tu me fous en forêt, moi, je reviens jamais, quoi. C'est trop la même énergie. Moi, je dois vivre en ville. Mes amis belges, ils s'inquiètent pour moi. Ils me disent, mais ça va à Paris avec le stress et le bruit et les klaxons et les insultes. Mais un chauffeur de taxi qui gueule sur un cycliste, va te faire enculer, connard. Et moi, il y a comme ça que je me réveille, quoi. Franchement, il glisse une insulte raciste et je vais chercher le petit déjeuner. C'est croissant pour toute la coloc. On glorifie la nature comme si c'était le paradis sur terre avec des animaux tout mignons. Mais je rappelle que dans la nature, si la maman animale accouche d'un petit qui boite, elle le bouffe. À côté, dans nos villes horribles et stressantes, on a inventé ce concept incroyable qu'on appelle une béquille, qui permet à Théo, le petit dernier handicapé, de quand même vivre sa vie plutôt que de finir en méchoui pour le reste de la famille. Donc bon, pardon, mais courir en forêt, moi je reste dans le métro. Moi j'ai une théorie, une autre. Je pense que même les animaux, ils aiment pas trop la nature. Hein. Tu sens qu'ils sont jaloux quand même. Vous me croyez pas ? Enfermez votre chien dans le jardin quand il pleut. Il va tellement griffer la porte pour rentrer, tu sauras pas si c'est l'entrée de la véranda ou le bras d'une ado mal dans sa peau. Quoi. Oh. Attention. Attention, je suis convaincue.
On a l'image.
Pardon, mais c'est de l'écriture.
Oui, bah ça pardonne.
C'est important. Je suis convaincue qu'il faut protéger les natures à tout prix et les animaux qui sont dedans, mais nous, on n'a rien à faire là. Qu'est-ce que je vais chasser ? J'arrive déjà pas à retrouver mes AirPods. Alors mettez-nous les uns sur les autres dans des villes et puis laissez les 80% restants aux animaux et aux naturistes.
Bravo.
Lisa Delmoitier.
Plus jamais sur scène.
Non, il faut laisser dehors dans le jardin, elle gratte à la porte.
Elle gratte à la porte d'été.
À la niche.
Elle gratte à la porte. Qu'est-ce qui vous a plu, Virginie, quand vous avez découvert le scénar, le rôle, le personnage, justement ?
Mais c'est ça, c'était
d'être dans
l'idée.
Cette énergie, parce qu'elle vous va bien, cette énergie, quand on vous a vu sur scène, quand on vous aime dans vos seuls en scène et dans vos spectacles, vous êtes sur ce tempo-là.
Oui, et j'ai bien aimé, justement, cette relation. C'est vrai que dans les séries, on a beaucoup le même moteur, l'enquête policière, on l'a vu mille fois, et c'était ce rapport-là. J'adore sortir du cadre, se dire que tout à coup, il y a une espèce de petite chose qui griffe la porte du jardin, qui permet d'aller ailleurs et de mettre une petite note d'humour, hein, dédramatiser la chose. Sinon, je crois que écouter ou regarder une enquête, il y a un moment...
Et voilà. Il y a plus de situations comiques, finalement. En fait, à chaque fois, c'est émaillé de comiques sans cesse. Oui. À jouer, j'imagine que c'est la plus grosse partie.
Mais on s'est bien amusé.
Ouais, on s'amuse vraiment. Bien, oui, c'est ça. Si nous, on ne s'amuse pas, comment amuser le public ?
Oui, mais à la base, il y a quand même cette enquête policière, on est pris par le suspense, on veut savoir ce qui s'est passé.
Il y a plusieurs suspects.
On imagine bien qu'on aura la solution à la fin, mais...
Il faut une recette qui soit suffisamment équilibrée.
Et puis, il ne faut pas trop nous perdre dans les méandres du n'importe quoi, il faut rester crédible.
Non, mais il y a toujours le lien de la famille qui revient avec les problèmes que les deux protagonistes ont pu avoir, les soucis dans la vie, lui a perdu sa femme, moi, franchement, il s'est passé des trucs un peu difficile dans ma vie, et puis on se retrouve là. Oui, c'est vrai. Et puis l'humour, parce qu'il me semble que dans la vie, c'est vraiment forcément comme ça, des moments qui sont sombres, et puis tout à coup, on essaye de faire une petite respiration en rigolant.
Ouais, mais il y a des moments où vous êtes autoritaire aussi, Virginie.
Ah, j'adore ça.
C'est vrai.
Oh là là. Ah, ça, l'autorité, j'adore ça. Il n'y a que sur ma fille que ça fonctionne.
Non, mais c'est vrai. On voit les quelques. Les tons de menace, je ne sais pas comment les employer, sur les interrogatoires. Quand il y a un suspect, vous aimez prendre les choses en main et être ferme.
Bah oui, c'est ça qui est
très agréable. Je parle toujours aux interrogatoires. Non, j'ai vu la phrase.
Okay. Tu vois, non, mais tout de suite, il parle des animaux. Non, non. Non, mais c'est agréable d'avoir plusieurs couleurs, justement, dans ce personnage. Comme vous disiez, on a l'habitude de me voir dynamique, de jouer, et puis tout à coup, on voit quelque chose de différent. Mais je pense que c'est le rôle du comédien, et qu'on a tous envie, ici, autour de cette table, pour les comédiens, d'interpréter des choses qui ne sont pas forcément dessinées pour nous, ou dans lesquelles on n'a pas l'impression qu'on peut vous voir.
Il y a un petit côté ours, aussi, Samuel Labarre, dans votre personnage, ici, s'isole. Non, mais s'isole, il n'est pas joignable, il fait son enquête un peu tout seul dans son coin. Il n'est pas, pas très prévenant ni très proche de sa frangine, quand même.
Ah, pas très prévenant.
Pour lui, c'est énorme. Là,
je fais des efforts monstrueux. Je ne vois même pas, quoi.
Il me fait planter des plantes.
Oui, ouais, c'est
il partage son...
Non. Je la cherche un peu, mais c'est une façon de la...
Qui aime bien chanter bien.
Mais c'est le quotidien d'un frère et d'une sœur.
D'un frère et une sœur. Non, mais écoutez, je trouve que ce personnage est assez aux antipodes des enquêteurs qu'on voit.
Alors justement, quelle référence allez-vous chercher? Quelle vie lui inventez-vous?
Ah mais j'ai pas de référence, justement, j'en ai aucune. La référence que j'ai, c'est que...
Non, j'ai du mal à vous croire. Vous avez, entre ce que vous avez lu, joué, interprété, admiré même en tant que spectateur au cinéma ou autre, vous avez cherché une sorte de flegme un peu à l'anglaise, vous avez...
Un petit côté de Gaulle, un petit côté général.
Et Mitterrand aussi, ouais. Mitterrand, beaucoup dans le Kerzak. Non, je...
Non, mais je vous ai trouvé très british, je sais pas pourquoi.
Ah, il est comme ça, ouais. Samuel
mais parce,
aussi.
Mais parce que ça me colle à la peau, j'ai fait un test ADN, figurez-vous. Alors j'ai 33% de sang britannique, je sais même
pas. Oui, mais sur les mains, c'est pas pareil.
Non, mais c'est complètement dingue.
La boire.
33%.
Mais c'est génial. Ce petit côté anglais, c'est
anglais, d'ailleurs, c'est le pulvère. J'espère que tout le monde le voit, puisqu'on est à la radio, il y a des caméras partout.
Il y a des vues quand on nous écoute.
Il y a des vues quand on nous écoute. Je suis vert, j'ai pris un vert britannique. Non. Et Sylvestre aussi. Mais non, c'est je sais pas, j'ai pas de référence. J'ai pas de... Okay. Oui. Alors, c'est devenu un peu
ça. Non, mais quand on crée un personnage, et encore plus, comme vous l'avez dit très honnêtement tout à l'heure, en disant, il y a déjà tellement de séries, il y a tellement de policiers, de policières, il faut lui donner une démarche, une dégaine, il faut lui inventer une vie, un passé. Donc, on va forcément chercher des fils.
Des équivalences, des choses comme ça, oui.
Non.
Moi, il me fait penser à Don Draper, dans Mad Men.
Ouais.
Ah bah alors...
Mais il est beau.
Oui, non, mais...
Draper, il passe son temps à cloper, à boire.
Non, physiquement, je disais, il est là, évidemment, il est enquêteur.
Mon costume, c'est pas tout à fait le même non plus.
Mais non.
Alors, honnêtement, j'ai fait mon petit mix, j'ai fait ma petite recette, etc.
Voilà.
Mais j'ai pas été piqué dans des références... curieusement. La référence que j'ai, c'est moi, tout seul avec un sac à dos, partir en montagne ou dans la forêt... Et essayer de retrouver ces sensations.
Cette connexion. Voilà.
Est-ce qu'on cherche, Virginie, Samuel, à avoir une dégaine, un look, une façon de marcher, voire de parler aussi particulière pour que ce soit clairement quelqu'un d'autre, entre guillemets, que l'on joue, et pas se dire, bah, de toute façon, comme je vais le faire, ça passera toujours.
Non, c'est vrai que le personnage était influé aussi par le costume. On m'a mis des vestes, des sweatshirts. Il y a un petit côté plus carré.
Ado, presque, aussi.
Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et puis, je suis complètement différente. Lui qui est toujours tiré à quatre épingles, qui a un bon phrasé. Et puis moi, je suis un peu la brutale, quoi, là, dans
la banlieusarde, on a ce côté un peu ville et campagne.
Et puis la bagarre, quoi. Ouais. J'ai fait une bagarre. Ils avaient pris des cascadeurs et j'ai appris la cascade. J'ai adoré.
C'est votre première bagarre.
Mais j'adore ça. Il faut absolument qu'il me laisse encore faire des trucs comme ça. Non, mais j'ai adoré. Il y avait cette cascadeuse qui était là. Et puis, hop, je l'ai fait. C'est moi qu'on a choisi pour les mettre. Vous verrez une cascade.
Le policier Flair de famille, donc vendredi en 8 sur France 2, porté par Virginie Hoc et Samuel Labarthe qui sont nos invités. On en parle jusqu'à 12h30. Voici Tristan Lopez.
Bonjour.
Les policiers l'ont libéré.
À toutes et à tous. Bonjour. C'est une chronique mea culpa. Ouais, je tiens à m'excuser auprès de toutes les femmes desquelles je me suis moqué parce qu'elles lisaient 50 nuances de Grey il y a quelques années pour donner un petit frisson érotique au milieu des odeurs de transpiration sur la ligne 13. Et auprès de toutes les gamines qui ont flingué les housses des sièges de salles de ciné submergées par l'émotion devant la saga Twilight. Ce week-end, j'ai moi-même fait l'expérience du plaisir charnel par procuration en allant voir Baby Girl. Le nouveau film avec Nicole Kidman. Oui. Donc, il a joué une PDG jugée surpuissante qui se soumet à son stagiaire. Faut savoir que le stagiaire dans le film interprété par Harris Dickinson, il te met un de ses coups de chaud. Donc avant de continuer ma chronique, j'aimerais déjà savoir qui est en charge du recrutement des stagiaires chez Radio France. Parce que clairement, je pense qu'on est sur un manque d'investissement. On n'en peut plus des stagiaires de troisième boutonneux qui ne savent même pas qui on est. Aucun respect, les gamins. Franchement, s'il y a que ça l'année prochaine, on les envoie chez Morandini. Vous allez voir, c'est pas la même limonade. Rien à voir avec le stagiaire de Nicole, ma voisine de siège respirait si fort. À un moment, je crois qu'elle m'a regardé pour me demander si c'était ok qu'elle commence à se masturber à côté de moi. Et j'ai trouvé ça vraiment chic de ta part, Lisa. Parce que quand on est à la radio, souvent tu le fais sans demander d'autorisation. Donc là, ça fait plaisir.
Les caméras.
Il y a une scène dans le film, ils sont à un after work avec des collègues. Le stagiaire commande un verre de lait à Nicole, qu'elle boit en le regardant dans les yeux. Du coup, moi, je rentre chez moi, je sers un verre de lait à mon maître, je lui tends de manière un peu autoritaire en lui disant bois, tiens. Et là, il me répond « Pardon, j'ai pas entendu. Wow. » Et je lui répète un peu plus fort « Bois, petite traînée. » Alors, je sais pas si c'est l'utilisation de l'impératif ou le petite traînée, mais il m'a regardé en mode « Mais t'es un ouf, quoi, tu me parles comme ça, tu veux que je te monte en l'air ?» Moi, je voulais juste créer un moment un peu sexy. J'avais oublié que chez mon mec sommeillait une candidate de télé-réalité. Je le calme, je lui explique la situation. Et là, il me balance « De toute façon, je suis intolérant au lactose. Après, je vais avoir des gaz. Oh. » Je vous jure, on n'est pas aidés, quoi. Dans le film, Nicole, elle se pose pas la question de savoir si c'est du lait végétal ou pas. Elle obéit. Mais avec moi, ça ne marche pas. J'aimerais tellement être un peu craint, parfois, avoir du pouvoir. Mais je ne suis le maître de personne. En revanche, je suis grave la pute de Nikos Aliagas.
Oh,
samedi dernier, finale de la Star Trek. 8 fois, j'ai voté pour Ebony. Je lui ai porté l'œil, la pauvre. Oui. Non, je sais pas pourquoi. J'ai l'impression que je ne dégage pas cette énergie de mec un peu dominant. Je suis rentrée chez moi l'autre soir un peu tard. Il y a une fille qui entre dans l'immeuble juste avant moi. Mais elle m'avait pas vue. Donc, alors qu'elle ferme la porte derrière elle, moi, je pousse pour entrer. Elle se met à hurler. Se jette sur l'interrupteur, me voit et là elle me dit « Ah mais vous êtes Tristan Lopin, pardon, je suis désolée, j'ai cru qu'un mec me suivait. » Je dis « Bah oui, techniquement jusque-là je suis un homme, je suis derrière vous, donc bon, ça s'entend quoi. » Et là elle m'achève en me balançant « Non mais j'ai cru que c'était une menace, alors que vous, bon, alors que moi, bon quoi. » Comme si c'était évident que je pouvais pas représenter une quelconque forme de danger. C'est quoi ces préjugés? Alors quoi, parce qu'on n'est pas une armoire à glace qui crache par terre, siffle les meufs dans la rue et mange sa viande bien saignante, on est une menace pour personne, c'est n'importe quoi. Mettez-moi en face de quelqu'un qui critique ouvertement Britney Spears, Isabelle Huppert ou Kate Winslet, vous allez voir, je préfère vous le dire, ça va chier des bulles.
Yeah, il est énervé.
Dommage qu'il n'est pas sur scène.
Quand tu dis chier des bulles,
c'est dommage.
Ça enfin, fait peur, chier des bulles. Bulles
moi, même là, t'es pas une menace, hein, je te dis.
Non, mais je préfère. Je suis à safe place.
Ça dépend de la taille des bulles, en fait.
Moi, j'ai eu un petit frisson quand même.
Ouais, j'aime ça.
J'ai eu un petit frisson.
Le cadavre d'un chef d'entreprise est retrouvé au fond d'une cour. Un incendie criminel se déclare dans une cabane perchée. Ce sont les premières minutes de Flair de famille. Attention, dans cette phrase, il y a un piège. C'est vendredi en 8, mais ça sera le vendredi 7 février.
Oui, c'est toujours été compliqué pour moi.
Ça s'appelle des chiffres et des lettres.
Et il y a un second piège, il n'y a pas que les cabanes qui sont perchées.
C'est mon frère.
Ah oui, ça c'est fait. Ça se passe en tout cas beaucoup dans la nature et justement nous parlerons tout à l'heure des bienfaits ou de l'importance de la nature avec Sylvie Chocron qui est neuropsychologue et qui nous dira à quel point la nature peut avoir une influence sur notre système nerveux, sur notre vie, notre comportement. La musique, ça c'est le générique de Flair de famille.
Et c'est moi qui joue de la contrebasse. Hein.
Ce soir, Mito. Mito.
Pourquoi pas
tout,
Moi, je crois.
C'est Nicolas Herrera qui a fait la musique. Didier Bivel réalise cette série. La musique dans vos vies, on va l'évoquer, notamment 1983, Virginia Hogg, vous écoutiez. Tina Turner. Si à l'époque, je crois qu'il y avait encore Ike qui était avec elle sur ce titre. C'est Ike et Tina Turner.
J'adore.
Ouais, c'était un couple. Hein. Il était violent avec elle. Hein. C'était un
oui, la musique, je parlais la musique, bien sûr.
Pas Ike.
Non, mais. Il y a des histoires de. Non. C'est pas plus mal de le raconter aussi, de la manière avec laquelle c'était un couple où lui était le décideur de tout, mais il l'a batté, et où elle a décidé de, entre guillemets, de prendre ses distances, de le rejeter, de faire sa carrière, et elle a une carrière formidable, et lui, il est tombé dans les nimbes.
C'est bien de le dire, mais c'est pas pour ça que je l'ai choisi.
Ah, pourquoi alors?
Je l'aime parce que le début est si lent, et puis il y a cette dynamique, et puis j'ai quand même cette image de Tina Turner qui fait cette chorégraphie endiablée,
avec les robes à...
Ouais. Quel frange. Dynamisme.
Ouais. C'est Zaïkat d'ailleurs, c'était comme ça que, ouais, qu'elles étaient surnommées, les filles qui dansaient autour de Tina Turner. On est en 83, Leïla.
Et j'imagine que cette énergie, ça vous correspond bien, enfant ? Quand on parle de ce morceau-là, enfant et sans doute encore aujourd'hui, Samuel Labarthe vient de faire oui, 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 en opinant du chef. Enfant, vous faisiez de la danse, de la natation et...
Je crois que mes parents ne voulaient pas me voir.
Voilà.
Je viens de comprendre ça maintenant. Merci Leïla. Ah ouais, journaliste, ça... psychologue, c'est trop pour toi. J'ai le goût de pleurer.
Je veux dire, quand on colle son enfant 4 fois par semaine à l'extérieur de la maison, c'est vrai qu'il faut se poser des questions.
Surtout quand on laisse dormir dans le jardin, surtout, c'est quand même le...
Et ça gratte à la...
Elle grattait à la porte.
Je sais plus quoi dire. Faut que j'appelle ma mère, mon père, je peux pas, il est mort.
De toutes ces... Oh, oui.
De toutes... Il est mort, c'est
oui,
pas un
Virginie,
gros mot.
Non, mais...
Mais peut-être qu'il t'entend.
Oui.
Eh ben oui, alors attends, pourquoi tu m'as fait ça?
C'est vrai que sur sa tombe, vous avez voulu qu'il y ait un cul, en gros.
Oui, parce que mon père tenait au cul de notre non-famille, parce que tout le monde met un K. Et du coup, quand le monsieur Contré est venu nous dire « Qu'est-ce que vous voulez sur la pierre tombale ?» J'ai dit « Je veux H-O-C petit et un gros cul. » Et il a fait « Oh là là !» Et du coup, vraiment, sur la tombe de mon père, j'adore imaginer quand les femmes font « Oh, Brigitte Bucquin, j'ai bien aimé. Oh, Sandrine Vrolin, mon Dieu !»« Oh mon Dieu, qui est gros cul !» Eh ben, j'adore cette image. Donc, il y a ce gros cul sur la tombe de mon père.
C'est le sens, c'était le
à Nivelles. Voilà. Au cimetière de Nivelles.
C'était le sens de l'humour de votre papa ?
Oui, oui, et puis, ça a été merveilleux, du coup, l'enterrement. Parce que regardez, je peux encore parler de mon père, alors que d'habitude, un enterrement, ça devient on vous dit, vous avez été un peu choqué quand j'ai dit mon père est mort, il y a quelque chose avec la mort où c'est, on va pas remuer tout ça.
Il y a la notion de respect, on se dit, on va pas rire
de tout ça. Là, je peux encore le faire. Je crois que j'en ai jamais autant parlé depuis qu'il n'est plus là, comme s'il y avait quelque chose de digéré, et puis qui s'est montré même sur scène et qui fait des émus.
Et c'est vrai que tout le monde était sous à l'enterrement.
Oh oui, c'était génial. Tout le monde était bourré. Au début, tout le monde était là. Oh, je l'ai bien connu. Des gens que je ne connaissais pas qui venaient pleurer dans mes bras, je ne savais pas qui c'était. J'ai servi de la bière, de la tarte al giot, puisque c'était à Nivelles.
Tarte al giot, c'est quoi ça?
C'est une espèce de tarte avec des blettes, et du fromage. Et là, on met du beurre, c'est bien gras. Et on a bu de la jambe Nivelles.
Du fromage fondu?
Oui. C'est écœurant. Donc les gens étaient tristes. Après, ils étaient bourrés. Et quand ils voient ma belle-mère, ils font oh là là, c'était une belle. Non. Je suis rentrée à quatre pattes. C'était génial.
Dans toutes ces activités, quelles étaient celles que vous vouliez pratiquer? Parce qu'on a compris que vos parents...
La danse, j'aimais pas. Franchement, la danse classique, ça m'allait pas du tout. Avec ce grand corps qui dépassait. Non, ça n'allait pas. La natation non plus. C'était vraiment les cours de déclamation, art dramatique, diction, tout ça, tout ça.
On comprend mieux. Oui. Samuel Labarthe, vous, mon dans Dieu. Ces années. On est en 83, vous écoutiez Sting. Et oui.
C'est mon frère, il a du goût.
Fragile. Classique.
Ah ouais.
Vous avez entendu la
c'est vrai qu'on est différents.
La version avec Stevie Wonder.
Formidable.
Ouais. Oh. Et c'est à tomber par terre.
Formidable. On est en 83, Leïla, dans la vie de Samuel Labarthe. Que se passe-t-il?
Il y a Viviane Théophilides, il y a Michel Bouquet, il y a Daniel Mesguich à cette époque-là, puisque vous entrez au Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique à Paris. Et les noms que j'ai cités, ce sont vos éminents professeurs.
Oui, entre autres, oui, il y avait Gérard de Sarthe aussi. Oui, oui, c'était...
C'est la grande famille du théâtre, quand
la
même.
La grande famille du théâtre, et puis ce conservatoire où, effectivement, voilà... Tout le monde rêvait d'y rentrer. C'était une période assez curieuse parce qu'il y avait d'un côté les Amandiers de Nanterre et puis il y avait il y avait l'autre côté où
comme une concurrence.
Comment?
Comme alors
il y avait
un
il y avait une petite concurrence quand même. Ouais. Et juste avant ça, il y avait encore une autre concurrence. C'était l'ouvroir que Vitesse avait ouvert à Chaillot. Et non, il fallait choisir son camp, presque.
C'est ça,
c'est curieux.
Ouais. C'est ça. Qu'avez-vous retenu? Est-ce qu'il y a une phrase comme ça qui résonne toujours si on parle des conseils donnés par ses professeurs? Quelque chose qui vous sert toujours aujourd'hui?
Oui. Moi,
apprends ton texte, déjà.
Alors, il y a plein de choses, mais en fait, si j'ai eu envie de rentrer au conservatoire, c'est parce que, à cette époque-là, on avait envie de rencontrer des maîtres, ce qui n'est peut-être plus le cas forcément aujourd'hui. Peut-être parce qu'il y en a moins ou parce qu'on a envie de rompre avec la tradition. Ouais. Mais à l'époque, Michel Bouquet, pour moi, c'était un porc, quoi. Enfin, c'était un PORT, n'est-ce pas?
Tout le monde a eu, tout le monde a eu un petit moment de
un grand port.
Ok.
P-E-R-T, dans lequel.
Je fais le bateau. Merci.
D'accord, de brume. voilà, on avait tous envie d'accoster pendant quelques années et l'écouter parler du théâtre, c'était formidable. Alors après, on a eu pendant, au conservatoire pas mal de gens qui sont venus nous les expliquer, nous donner des petits conseils, ça. Et il y avait Henri Vire-le-Jeu. Je ne sais pas si vous vous souvenez d'Henri Vire-le-Jeu, mais j'adorais cet acteur.
Bien franchement, sûr,
magnifique acteur, qui est venu en disant « Oh, écoutez, je ne sais pas quoi vous dire, je pense que vous savez déjà tout, mais si je peux vous donner un petit conseil, n'ayez jamais faim. Ayez toujours quelque chose à manger dans votre loge. N'entrez pas sur scène en ayant faim. » Voilà.
C'est joli.
Oh, c'est tellement mignon.
Et alors, vous suivez ce conseil ?
Bah oui, j'ai toujours un petit truc, je grignote tout le temps, un petit peu, je pense à lui.
En 2012-2013, Virginie Hogg, vous écoutiez les Daft Punk. Et où est-elle en 2012, Leïla ?
Dans la série Vive la colo, diffusée sur TF1. Vous racontez que vous êtes mis une sacrée pression pour...
J'ai comme une murge aussi.
Arrêtez de faire des petits poils suspendus comme ça. Ma vie est un désastre, vous entendez. Alcoolique, abandonné par ses parents. Oh, merde.
Une certaine logique.
Mais c'est dur.
Une telle pression pour ce... Pour
mais cette parce que c'était intense, que je me retrouvais avec beaucoup de comédiens, beaucoup de textes. Donc voilà, j'avais peur de ne pas assumer. C'était avec Julien Boisselier qui était mon partenaire. Et franchement, je voyais Julien que j'appréciais beaucoup. Et j'espère qu'on va bien s'entendre, mais c'est toujours mon inquiétude, me dire est-ce qu'on va bien s'entendre, est-ce que ça va être chouette.
C'est sûr que c'est un problème ça aussi, de se retrouver dans une troupe et...
J'y touche du bois, ça n'est jamais arrivé, parce que c'est important, avec Samuel, on s'est vraiment amusé énormément aussi. Et puis le premier jour, on faisait
une grosse scène. Je vous vois difficilement pas bien vous entendre avec les gens, moi.
Ça ne m'est jamais arrivé, mais à chaque fois que je commence quelque chose, je me dis si ça tombe, c'est cette fois-ci, que ça ne va pas bien se passer, que ça va être horrible, une tournée d'un an, et tu te dis oh là là, ça ne va pas.
Et ça vient d'où cet optimisme alors?
Je préfère partir comme ça, Daniel. Oui. Je crois que c'est le yoga que vous m'avez transmis.
Si j'ai pu servir à quelque chose.
Vous êtes vraiment... J'ai adoré la position du parking à vélo que vous nous aviez appris. Celle-là, c'était ma préférée. Avec souplesse.
Faut bien rentrer la première roue.
Et voilà.
Samuel Labarre.
Allez, ça c'est fait.
Voilà.
Revenons. Je vous apprendrai, Samuel.
Samuel, vous écoutiez London Grammar.
On est tellement différents. Oh, je t'aime.
En tout cas, ça va bien avec vos personnages.
Oui,
c'est-à-dire qu'il y a un rythme endiablé d'un côté et quelque chose de plus posé
on
de l'autre.
On s'est pas consulté. Hein.
Mais non. Mais en tout cas,
je veux dire quoi, toi ?
Vous êtes bien complémentaires. Et là, c'est la Comédie Française, Leïla.
Oui, vous êtes engagée en tant que pensionnaire. C'était le 1er septembre 2012 pour jouer le rôle du marquis dans la critique de l'école des femmes.
Ah,
votre
oui.
première. Ouais, vous souvenez ?
Oui.
Ouais. Entrer là encore dans une grande maison, les honneurs encore une fois de la grande maison du théâtre, j'imagine, c'est quand même un...
Oui, c'est
un accomplissement, c'est vrai. Oui.
Oui, enfin, on pense ça, et c'est surtout une maison formidable, qui est le seul théâtre comme ça en France. Je ne sais pas s'il y en a d'autres d'ailleurs dans le monde, qui abritent autant de métiers, d'artisans, de personnes au service d'un spectacle le soir, qui pratiquent l'alternance. Je crois que ça n'existe pas.
Quel était le bon côté ? C'était justement en tant qu'acteur de pouvoir jouer énormément de rôles en quelques saisons. Ça, c'était le bonheur ?
Bah, c'est pour ça que j'ai jamais la fève. Non, mais c'est ça. Je me suis toujours dit, j'étais pas pensionnaire, j'étais demi-pensionnaire parce que comme je tournais Les Petits Meurtres en même temps, j'étais tout le temps en train obligé de partir. Tourner les films, donc demander des congés à la maison, parce que normalement ça se fait pas. Et donc je n'ai jamais pu faire d'alternance en 3 ans. C'est-à-dire que j'ai fait plusieurs spectacles, mais j'ai pas pu faire les mêmes spectacles dans la même semaine, par exemple. Ou reprendre un spectacle pendant que... Parce que c'était impossible pour le planning. Donc j'ai été, je le dis moi-même, demi-pensionnaire.
Et ça veut dire que il y a un petit goût de...
Oui, de pas...
Ça
veut dire qu'un pas avoir connu l'alternance à la Comédie Française, franchement, je dois être le seul.
Si on vous repropose aujourd'hui, vous y retourneriez ?
Écoutez, alors j'ai donné ma démission. J'ai donné ma démission parce que je tournais trop, j'arrivais pas à servir la maison suffisamment, parce que vraiment il faut être au service de cette maison. Et j'ai justement donné ma démission en pensant que je n'allais pas claquer la porte en partant, donc ça veut dire qu'elle est entrouverte.
Ah, joli. Nous revenons à ce flair de famille sur France 2 le vendredi 7 février, donc pas demain, mais vendredi en 8 à 21h10.
C'est bien.
Ça s'appelle le guet-apens avec nos invités. Sylvie Chocron, bonjour, merci de nous rejoindre à ce micro. Vous êtes neuropsychologue et directrice de recherche au CNRS et à l'Université de Paris. Aujourd'hui sort ce livre « Plonger dans votre cerveau ». L'explorer, c'est l'apprivoiser auprès de la cité. Explorer la nature et se promener dans la nature, est-ce que ça fait... C'est une légende urbaine de se dire « Allez, va respirer un coup, va
faire
te balader... »
un câlin, un
va
arbre.
Te... Voilà, va te balader en forêt. Ouais, fais le fameux câlin. C'est la Sylvie Thérapie, je crois que ça s'appelle.
C'est Sylvie Vartan.
Non, mais on dit Sylvie Culture, en tout cas.
Sylvie Thérapie.
Oui, parce que c'est ça, c'est la forêt.
C'est exactement. Sylva.
Sylva, c'est la forêt.
Et donc, non, alors, c'est pas.
En quoi ça fait du bien?
C'est pas un mythe. On dit qu'aller marcher dans la forêt, être exposé à la nature, ça fait partie de ces anti-stress naturels. Un petit peu comme le rire hein, que vous pratiquez ici. Et donc du coup, alors évidemment, c'est aller jusqu'à cette notion de sylvothérapie. Moi, je n'emploierais pas le terme de thérapie. D'accord. Et donc ça, c'est vraiment très contesté parce qu'il n'y a pas de preuve scientifique que c'est vraiment une thérapie et que ça peut soigner. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'immédiatement, quand vous êtes en contact avec la nature, immédiatement, vous allez avoir votre fréquence cardiaque qui diminue, vous allez vous sentir moins stressé, et puis surtout, on a montré que ça dope l'attention, ou la mémoire, ou la résolution de problèmes.
Donc ce sont les sens qui sont aussi développés.
Exactement, parce que quand vous êtes dans la forêt...
Le toucher, la vue, l'odorat, l'ouïe, tout ça.
Exactement, parce qu'en fait, quand vous êtes dans un milieu naturel, vous avez tous vos sens qui sont sollicités, et pas seulement la vision. Et ça va plus loin que ça, donc mis à part le fait que vous avez la vision, l'audition, le bruit du vent dans les feuilles, etc., on a montré que le cerveau préfère finalement être surpris par l'environnement visuel de la forêt, où il se passe plein de choses, la lumière passe, etc., plutôt que les angles très réguliers et la lumière qu'on a en ville. Et donc, du coup, le cerveau aime être surpris, de manière générale, sans que ce soit un danger. Et du coup, quand vous marchez dans la nature, finalement, vous ne pouvez pas prévoir ce que vous allez rencontrer, ce que vous allez voir. Et ça, ça a un effet très bénéfique sur le cerveau.
Autrement dit, au-delà de l'activité physique qui est de bons conseils, c'est-à-dire marcher déjà, bouger, éviter de rester assis ou collé devant les écrans, le fait d'être dans la nature, quelle que soit la météo, c'est-à-dire qu'il vente, qu'il pleuve, qu'il fasse chaud,
on
peu
est
importe.
Plus ou moins résistant, hein, suivant les personnes.
Mais ça réveille d'autres sens.
Mais de fait, vous
aussi.
Avez raison, il y a des effets cumulés. Il y a l'effet d'être dehors, donc on va respirer différemment. Il y a l'effet de marcher. On sait que la marche a un effet positif sur le cerveau et sur tout ce que j'ai cité avant. Et puis, il y a l'environnement.
On recommande contre Alzheimer, les maladies cardiovasculaires aussi, de garder ce mouvement.
L'activité physique et l'activité
du cerveau. Aussi.
Une des meilleures façons de lutter contre le déclin cognitif, c'est l'activité physique. Et du coup, si cette activité physique, elle est en plus cumulée à un environnement naturel, on a le bénéfice des deux, sachant en plus que quand vous marchez dans la forêt, vous avez cette sensation d'être tout petit par rapport aux arbres et à tout ce qui vous entoure. Et de fait, votre cerveau considère que vos soucis, finalement, c'est pas grand-chose face à l'immensité dans laquelle vous êtes.
Ça marche avec les buildings, alors ça marche avec les immeubles.
Sauf que les immeubles sont trop réguliers. Il y a trop d'angles, il y a trop de gris. Ouais. Et donc, du coup, la nature va apporter ça en plus. Et donc, on a montré que les personnes qui vivent dans un environnement où il y a des arbres ont un sentiment d'être en bonne santé et d'aller bien, bien supérieur à ceux qui vivent dans un environnement où il y a peu d'arbres. On peut même comptabiliser les faits. Plus vous rajoutez d'arbres, plus vous donnez la sensation aux gens d'être vraiment dans un... Voilà, de se sentir mieux.
Et pardon, pour aller plus loin dans ce que vous connaissez justement de notre cerveau, il vaut mieux le faire seul pour attraper les sons que l'on veut ou pas. Ne pas le faire avec un casque, j'imagine.
Alors ça c'est sûr, ni avec votre téléphone dans la main.
Mais et avec quelqu'un ?
Non, alors vous avez raison en fait. Plus vous allez rajouter des interactions sociales, plus ça va être bénéfique parce que nous sommes des êtres sociaux. Et donc on dit même que marcher dans un environnement naturel, ça permet d'aborder des sujets qu'on n'aborderait pas en face à face. Et figurez-vous qu'il y a des hôpitaux en France.
Comme une thérapie finalement de.
Exactement.
Peut-être même de couple, quoi. Allons marcher ensemble dans la forêt, on va
Exactement,
se parler.
Exactement, Nagui. Et il y a des hôpitaux en France, par exemple à Nancy, il y a un hôpital où ils ont un magnifique jardin à la française. Ouais. C'est dans le jardin, souvent, que se font les annonces de maladies graves ou que se font certains entretiens avec la famille, parce que ce sont des discussions qui sont plus faciles à avoir en marchant dans un jardin, côte à côte, que dans un bureau d'hôpital.
Et le câlin à l'arbre, c'est une légende
Alors ça, voilà, là, on dépasse un peu les connaissances scientifiques qu'on a. Donc moi, je ne me prononce pas, parce que je suis chercheur. Ah,
disons que c'est une prise de conscience, on s'arrête un moment et on réfléchit, on prend ce temps-là. Je crois qu'il est bénéfique de toute façon, que ça fonctionne ou pas. On s'arrête.
Et que ce soit un arbre ou quelqu'un, un câlin, ça se joue bien.
Un passant, vous le serrez fort. Oh.
Voilà, c'est pas une injonction d'aller caresser les arbres ou de les enlacer, mais le fait juste d'être dans la forêt va être bénéfique.
Pourquoi une promenade dans la nature, justement, un instant de silence, font-ils tant de bien ? Est-ce que le chocolat fait du bien ? Vous répondez à toutes ces questions.
Bien sûr.
Et un chocolat en pleine nature.
Il n'y a pas de débat, c'était même plus une question.
C'est une certitude.
En explorant le cerveau, plongez dans votre cerveau. Aux presses de la Cité, c'est signé Sylvie Chocron. Merci beaucoup d'être venue à ce micro. Et on se retrouve en forêt, donc évidemment.
Avec modération.
Voici Mélodie Fontaine.
C'est ça. Alors moi, je vais vous dire, plus je vieillis, moins j'aime les anniversaires. Pas ceux des copains, hein, ça me dérange pas. Bon, en plus, je suis rarement invitée, donc il n'y a pas de problème. Non, je parle de mon propre anniversaire, j'aime pas le concept. C'est déjà une plaie de se voir vieillir, surtout à travers des verres progressifs. Mais en plus, il faut l'exposer aux yeux de tous. Oyez, oyez, venez voir les yeux qui pendent le plus au monde. Approchez, ça va vous en mettre plein la vue. Sons des yeux, sons des petits vagins de tête. Ce ne sont pas ses lunettes, ce sont ses paupières. Parodier Michel Leb est-il signe de mauvais goût ou juste de vieillesse ? Je ne sais pas. Bref, mes yeux qui pendent. Mes seins aussi. Enfin, mes seins. Mes sacs de torse. Ah là là. Si tu penses que je suis le mouvement nos bras, t'as tout faux. J'ai pas de soutif. Eh ben si, j'ai un soutif quand même. Si je l'enlève, je peux les rouler et les mettre derrière mes oreilles. Je les entortille et je fais Princesse Leia. C'est marrant. Qu'est-ce qu'on rigole à la maison. Ah, tout le bazar pendouille tellement que ça devrait pas s'appeler anniversaire, mais pendaison. Le champ lexical est raccord en plus. Quelle étrange tradition que de pointer du doigt le temps qui passe. Tu perds des minutes de vie, champagne. Souris, tu vas claquer. Et c'est depuis l'Antiquité qu'on fête les anniversaires. L'Antiquité, pour les nuls en histoire, c'est quand Michel Drucker a inventé la cuillère à sauce. L'idée, c'était de se protéger des démons, de tisser des liens avec l'au-delà. Moi, je ne savais pas. Et bien, c'est réussi. Quand c'est mon anniv, je ne pense qu'à l'au-delà. Hein, l'anniv arrivant, je deviens acariète. Je me replie sur moi-même, littéralement. Je veux juste me mettre sous la couette en attendant que ça passe, en respirant mes odeurs. Ça sent la mort, mais c'est peut-être moi. De temps en temps, je décide de le célébrer malgré tout, et là, faut une date et un lieu. Alors la date, déjà, c'est du marchandage. Hein. Faut avoir fait l'ENA, je pense, ou le marché de Clignancourt pour négocier le jour. Le 11, le 13, non ? Remarque, si j'avais fait l'ENA, j'aurais attendu le vote et j'aurais fait ça le 12. Une fois que t'as la date, il y a le lieu. J'habite en appartement et ici, bah, t'as pas vraiment le choix pour le fêter. Soit c'est chez toi, mais à deux max, sinon tes voisins te fument. Soit dans une cave mal aérée où le seul cadeau que tu vas avoir, c'est un staphylocoque. Tiens, parlons-en des cadeaux. Je pense qu'à l'heure du zéro déchet, il est important de ne pas offrir n'importe quoi. Je me moquais de mes parents il y a quelques années quand on leur offrait du pinard. J'ai saisi. Le pinard, c'est très très bien. Hein, la règle, c'est rien qui s'accroche, qui se porte ou qui s'enfile. Désolée pour ce dernier point, Daniel. Point. P-O-I-N-T, hein, je précise. En même temps, je veux pas faire de cagnotte, je trouve ça dur. Résultat, cette année, j'ai eu quoi ? Des bougies, un chapeau et une paire de bols. La vieille dame ici, qu'est-ce que je vais avoir à mes 80 piges ? De la poussière ? Et le gâteau ? Alors, j'aime pas les pâtisseries, je préfère une belle bourrata. patates 500 grammes. Et attention, hein, pas de bougie. Hein, me percez pas ma belle poche de lait avec des bougies. Oh, me percez pas ma belle poche de lait avec des bougies. Je pensais pas dire cette phrase à la radio un jour. Alors, pendant les fêtes, quand les gens sont là, mon degré control freak atteint des sommets. Faut gérer les ozos, hein, faire gaffe que machin gère pas dans la machine à glaçons, que bidule harcèle pas la serveuse. Puis j'ai toujours l'impression que les gens s'ennuient. Alors, j'en fais des caisses et je bois comme un trou. Je finis par dire des choses horribles. Mon anif, ça ressemble souvent à un samedi après-midi au McDo de Mulhouse avec des enfants bourrés de sucre et d'alcool. Bon, heureusement, je vous dis ça, c'est pas demain la veille, mon anniversaire, ça tombe en octobre, donc j'ai le temps. Enfin, vous faites quoi d'ailleurs le 16 ou le 15? Enfin, on s'organise, ouais. Quoi. Ouais. Merci.
Les lundis et mardis à 20h à Paris au Point Virgule. Et le 5 février, elle sera à Montpellier. Et le lendemain, à Pont-Saint-Esprit.
Et le 7 février, il y aura Flair de famille avec ce guet-apens. Samuel Labarthe et Virginie Hoc sont nos invités jusqu'à midi et demi. Tanguy Passureau nous a rejoint. De quoi vas-tu nous parler?
Le jeudi, c'est vomi. Vous ne connaissez pas cet adage, c'est normal, je viens de l'inventer. Puisque figurez-vous qu'au Danemark, on a retrouvé un vomi vieux de 66 millions d'années.
Quoi?
C'est incroyable. Wow. Et ça nous renseigne sur la chaîne alimentaire de l'époque. C'est très intéressant.
Très bien, on en parlera après. La bande originale avec Leïla Garboudani, Zad El Moitié, Mélodie Fontaine, Oldelaf, Tanguy Pasturo, Tristan Lepin, Daniel Morin. Voilà,
moi j'ai buté.
Et nos invités Virginie Hoc et Samuel Labarthe.
France Inter. Bravo. Bande originale. Leïla Kaddour et Nagui.
Virginie et Samuel, à l'affiche de Flair de famille, le troisième volet de la série, Flair de famille.
C'est quand?
Ça sera le 7 février. C'est le 7 février, ça tombe un vendredi, tu sais, mais pas ce vendredi.
Ah, c'est
celui
en
d'après.
8,
c'est donc c'est vendredi en 8, mais ça sera quand même le 7.
Ah là là, c'est compliqué.
Ah oui, il faut noter.
Bah, regardez tous les soirs.
5 millions de téléspectateurs lors des premières diffusions, tout autant sûrement avec cet épisode qui arrive, qu'on a eu la chance de voir déjà. Le point de départ, évidemment, comme toute série qui se respecte, il y a
une fête,
un décès.
Ah non, un décès.
Il y a un décès, un meurtre. Et là, une enquête démarre. Enquête entre un frère et une sœur. Il y a quand même la différence d'âge qui joue et la différence de statut et d'autorité. On est d'accord, il est votre supérieur.
Oui, je fais beaucoup plus jeune que lui.
C'est ça. Petit
c'est
temps.
Ça. Et
petit...
Oui, c'est mon supérieur, mais cela dit, avant, quand j'étais dans le 9-3, j'avais des enquêtes que je menais moi-même, toute seule. Et là, il faut travailler avec lui, et c'est très compliqué.
C'est ma petite sœur.
C'est joli.
On a un peu la même taille, non?
Toute petite sœur.
Ça commence dans un jardin, vous êtes en train de lui expliquer d'ailleurs comment...
Non, ça commence dans une gare. Oui. Il y a une scène de...
Ah oui, pardon. Oui, non, mais je...
De jalousie.
Mais notre première...
Oui.
Ouais, tous les deux, c'est dans le jardin.
Mais je remarque que vous avez regardé, Leïla, très bien.
En train de planter, en train de mettre de l'engrais, l'odeur ne lui plaît pas, non. Elle n'est pas proche,
le
pas
compost,
aussi proche.
Ça,
voilà,
non.
C'est ça. Pas aussi proche de la nature que vous pouvez l'être.
Non. J'essaie de l'éduquer un peu sur les gestes éco-responsables.
Mais merci, quoi, de la terre dans les ongles. Merci bien.
Voilà. Il y a cette enquête donc qui est menée après pour savoir qui a pu tuer cet homme d'affaires, ce riche propriétaire. Est-ce une histoire d'amour, une femme délaissée, un associé qui avait un intérêt financier à tuer son partenaire, un vieil ami avec de vieilles rancœurs, un employé aussi qui veut se venger des conditions de travail. Toutes les pistes sont là, c'est véritablement une enquête. Et quand ça s'appelle, oui, Flair de famille, on a compris tout le jeu de mots qu'il peut y avoir entre l'enquête et cette expression, mais il y a surtout beaucoup de logique, beaucoup de raisonnement. Mmh. C'est pas simplement l'intuition avec le tiens, je vais aller là, je suis sûr qu'il y a quelque chose ex nihilo comme ça, avec une révélation qui tombe de nulle part. C'est plutôt des choses qui s'imbriquent, comme un puzzle qui se construit.
Oui, puis en plus de ça, c'est une enquête qui va pas bien. Très rapidement,
vous savez vendre les produits.
Mais qui va pas bien, c'est-à-dire qu'il n'avance pas, qu'on fait du surplace. C'est la première enquête qu'on a qui n'avance pas et on ne sait pas pourquoi, on n'arrive pas à tirer le bon fil de cette pelote. Tout est imbriqué. On est...
Et en plus, mon frère est un petit peu distrait par une jeune femme qui pourrait être potentiellement une suspecte et lui, ses yeux pétillent d'amour.
C'est normal, c'est Alexia Barlier.
Oui, mais quand même.
Joué donc par Alexia Barlier. Vous avez raison, il faut citer les autres. Il y a Nicolas Grandhomme, oui, Selma Cauchy, Oscar Cobb, Didier Flamand, ouais, qui joue le rôle de Bernard Flamand, il ne faut pas se tromper.
Le père.
Guillaume Faure, Vincent Rialet, Fatim Zahra Halami, voilà. Marouni.
Oui, je vous en supplie, Samuel, c'est Leïla, c'est pas Leïla. Vous l'appelez Leïla pendant tout l'épisode.
C'était écrit comme ça.
Non, mais L-E-I-L-A, c'est Leïla.
Non, L-E-L-A.
C'est difficile.
Non, non.
Mais moi, je le dis à l'alsacienne.
À l'anglaise. Oui, d'accord, mais non. Non, c'est pas un prénom alsacien, simplement. Non,
non. Moi, je connais plein d'alsaciennes qui s'appellent
Leïla.
Elle est là.
Voilà.
Hildegarde,
elle est là. Elle est là, elle est où?
Vous chantez, vous montez un petit peu.
Elle est là, mais je sais, elle est là.
Leïla. Ça fait trois syllabes.
Sinon, c'est quand sur France 2?
Le 7 février.
Ça m'en fout.
Voici Tanguy Passereau tout de suite.
J'ai horreur des gens qui disent « c'est vrai que je suis jeune, mais au fond de moi, j'ai une vieille âme. Mmh. J'ai vécu plusieurs vies, Galilée, c'était moi, Vasco de Gama aussi, Louis XVI, par contre, j'ai pas aimé la fin, j'ai préféré le 15, France Gall, c'était moi, le Parti Socialiste aussi, tous les morts. Il y a aussi des gens qui disent « Enzo, toi, tu as une vieille âme, souvent des pédophiles. » Et l'interlocuteur, Enzo, 7 ans, répond « T'es sûr, tonton, pour l'âme de l'âge de mon âme, parce que cette nuit, je me suis encore fait pipi dessus. » Eh ben justement, Théo, c'est parce que tu as l'âme d'un seigneur de 96 ans, CQFD, soit en Pokémon, Colossinge, Colorieur, Fantominus, Dracofeu. Parce que le pédophile s'adapte. Hein, les bonbons créma, par exemple, c'est fini. Maintenant, les mecs se mettent devant les écoles du 11e, distribuent du boulgour et ils embarquent les gosses des bobos au vélo cargo. Bref, il y a des vieilles âmes. Moi, c'est le contraire, j'ai une âme jeune. Dans ma tête, j'ai 12 ans et demi. Hier encore, quand on gonflait des ballons pour l'anniversaire de ce pote, avant de faire le nœud, j'ai lâché le ballon gonflé pour qu'il s'envole dans la fièvre, dans la pièce en faisant pfff. Hein, on aurait dit Nicole Kidman quand elle explique avec une aiguille à tricoter. Qui fait ça à mon âge? J'ai une âme jeune. Par contre, je vieillis. Je le vois au fait que je commence à raconter des anecdotes sur ma vie. Ce que jamais un jeune ne fait. Oui, alors en CP, je suis là dans la cour, elle a la maîtresse. Aucun CM hein, ne dit ça. Hein. Donc, mon anecdote, la voilà. C'était il y a 4-5 ans au Théâtre du Marais, avant que je ne rencontre ce public venu en masse m'enrichir. Je fais mon spectacle quand soudain le régisseur m'interrompt. Tanguy, me dit-il. Je réponds non, monsieur Pastureau. Là-dessus, il se prosterne, je le bifle. C'était avant MeToo et le wokisme. Non, non, Slimane, il s'est juste trompé d'année. Encore un qui doit avoir une vieille âme, quoi. Et là, le régisseur me dit on va faire une pause, il y a quelqu'un de malade dans le public. Et en effet, une personne a vomi. Pas le petit renvoi gastrique qu'on se colle dans le creux de la main discrétos avant de se frotter sur le manteau de la personne de devant. Non, il y a une mare de vomi. Je sais pas si vous avez déjà fait des soirées où on ouvre des œsophages. Non, parce que vous en êtes toujours au karaoké. Bon, ça rendait pareil, quoi.
Hein,
et la dame, parce que c'était une dame, circonstance aggravante, parce que du coup, elle avait perdu en féminité. Vous imaginez si en plus elle était venue non épilée et sans l'approbation de son mari? La dame, on avait mis partout, à tel point qu'on était étonnés qu'il n'y ait pas eu d'alerte de tsunami avant. La seule personne que j'ai vu vomir comme ça depuis, c'est Leïla Kadour quand on lui a fait écouter la reprise de Femme Like You par Julien Doré et qu'elle a hurlé personne ne fera jamais mieux que Camaro. Hein, c'est ce jour-là qu'on a eu l'idée de la désenvoûter. Bon, tout ça pour vous dire que ce soir-là, pendant qu'on sortait cette pauvre dame de la salle, qui souffrait peut-être juste d'une allergie à ce charisme que je développe sur scène, bon, bah moi j'ai meublé, j'ai raconté que j'avais grandi en Bretagne, donc dans le vomi, entouré de gens qui se mettaient des caisses parce que les Bretons, vous savez, ce sont les Anglais de la France. Bon, et que je m'en étais sorti. Et c'est vrai que je connais bien le vomi, mais j'en parle peu parce que je passe à midi 10 quand les gens déjeunent. Lisa Delmoitier, notre amie de 11h20, n'a pas ce souci. À 11h20, personne ne mange. Elle peut aborder en thématique tout ce qui sort du corps et aussi tout ce qui y entre. Parfois les deux dans la même chronique. Ouais. Mais moi, si je parle de vomi à midi, ça va faire vomir ceux qui écoutent parce que le vomi, c'est le seul truc quand on en parle qui donne envie aux autres de faire pareil. Jamais quand on parle de fiscalité, les collègues se précipitent sur impots.gouv.fr pour voir s'ils ont payé la taxe foncière. Il n'y a que le vomi qui fait ça parce qu'on trouve cet acte répugnant. Alors qu'en réalité, c'est très beau. Symboliquement, c'est une reprise en main de son microbiote. Le vomi, c'est la psychothérapie des viscères. Et hier, j'étais à la soirée et les durs ma droite, organisée par Sarah Knafo. J'étais déguisé en logo Fred Perry, ce qui n'est pas évident parce que c'est une couronne de laurier, donc il faut garder les bras en l'air, bon, la moitié de la soirée. Quand soudain, Daniel, déguisé en Benito Mussolini, me dit « Tanguy, je viens de voir sur Le Figaro, un journal de gauche pour nous, qu'un vomi vieux de 66 millions d'années a été retrouvé. » Je réponds « Dans le Nord-Pas-de-Calais, je suppose, quoi. » Il me dit « Au Danemark. » Je réponds « Au Danemark ?» Il me dit « Au Danemark. » Parce qu'on est âgés, donc on s'exprime aussi lentement que dans un épisode de Maigret, quoi. Au Danemark. Bon. Donc je vous explique, peuple assoiffé de connaissances. Un Danois, en se baladant, a fendu un morceau de craie. Il s'est pris pour un prof un peu énervé. Dans cette craie, il découvre des fragments inhabituels du lys de mer. Vous connaissez le lys de mer ? C'est un truc de monarchistes qui font de la voile. Voilà, c'est pas avec ce genre de vanne que je vais remplir les salles. Revenons-en au vomi. Parce qu'on a analysé le truc. En fait, il s'agit de vomi de poisson. Ils l'ont fait certifier par des experts, l'équipe de Thalassa et le Capitaine Iglo. Bon, lequel poisson a donc mangé du lys de mer, ce qui est une découverte, parce qu'on apprend des choses sur la chaîne alimentaire d'il y a 60 millions d'années. C'est intéressant. Mais surtout, je me souviens qu'en 96, j'ai vomi du côté d'Étretat. Donc dans 60 millions d'années, peut-être qu'un humain tombera dessus et se dira nos ancêtres avaient un régime composé de bonbons Haribo, de 8-6 et de sandwichs grecs. Parce que j'étais jeune, je faisais des dingueries, comme disent les jeunes aujourd'hui. En fait, ce qu'il faudrait pour qu'on garde une belle image de moi plus tard, c'est que je vomisse maintenant. Non. Je veux dire, je suis végétarien, dans mon bidou, il n'y a plus que des légumes, techniquement, je suis une tourte. Hein, dans 60 millions d'années, les gens diront, ah, Pastureau, ben, c'était la preuve qu'il aimait les animaux. C'était une sorte de nagui, mais sexy, quoi. Il n'a pas dû trouver la craie, par contre, parce qu'il a vomi dans les galets, qu'on l'a. Oui, parce que quand tu manges que des légumes, tu as le retour de transit rapide. Tu vomis où tu peux. Voilà. Bon, chronique sur le vomi, je referai bien ça tous les jours. Lisa, on échange nos heures de passage.
Allez, parti. Merci.
Tanguy Pastureau.
Le 21 février sur scène à Toulon et le 15, il sera à Aix en Provence, le 15 mai, pardon.
Vendredi 7 février sur France 2, le nouvel épisode de Flair de famille avec Virginie Hoc et Samuel Labarthe. Une enquête avec le début d'un crime et une enquête qui va se promener et en forêt et en ville, puisque c'est bien aussi la caractéristique de vos deux personnages, l'une venant de la banlieue, proche banlieue parisienne, l'autre préférant la nature et la réflexion, et un peu la solitude quand même. Il n'est pas trop le travail en équipe, il est seul dans son coin en train de réfléchir à ce qui pourrait être la...
Ouais, en même temps il fait des jus.
Oui, oui. À ses équipes.
Il fait des jus pour son équipe,
c'est ça.
Il rassemble Bétrave. Tout le monde le matin, ouais. il est attentif au bien-être de tous.
Absolument.
Et au microbiote aussi.
D'autres oui. événements culturels, Leïla.
On cherche une photo qui fait l'objet d'une controverse. C'est un documentaire présenté au festival Sundance qui a mis le doigt dessus. Une photo mondialement connue en noir et blanc. Ce cliché a été capturé en 1972.
Einstein.
Pardon ?
Einstein.
Ah, la langue, non. Quand il tire la langue.
Non, en 72, ça a été capturé au Vietnam.
Ah bah c'est la petite fille,
absolument, la petite fille au napalm. Cette petite fille de 9 ans qui court nue en larmes après avoir été brûlée après un bombardement au napalm en pleine guerre du Vietnam où les Américains pensaient qu'il y avait un repère de Vietcong et en fait c'était une population. Cette photo a fait le tour du monde. Eh bien, il y a une polémique, une controverse autour de cette photo dans ce documentaire. Il est affirmé que Nick Hutt ne serait pas le véritable auteur de ce cliché. Nick Hutt qui avait reçu le prix Pulitzer pour ce cliché-là. Alors, il dément, bien entendu. Dans le documentaire, il est affirmé que ce cliché aurait été pris par un pigiste vietnamien qui servait de chauffeur lors de cet événement-là.
C'est pas la situation qui est remise en cause, c'est non, qui a c'est fait
qui
la photo.
Et voilà.
Mais la photo est vraie, en tout cas.
La photo est vraie, bien d'accord. entendu, sauf qu'elle n'est pas nécessairement signée par qui de droit. L'agence Associated Press réfute aussi ces affirmations. À découvrir, donc, dans ce documentaire qui retrace l'histoire d'un cliché, un des clichés les plus connus, je crois. Hein. Personne n'a eu de doute ici. Non. Tout le monde l'a vu une fois. La photo, une de vos passions, Virginie Hoc, véritablement, que vous continuez, j'imagine. Là encore, Samuel opine du chef, donc à mon avis,
et
sur le tournage. Voilà,
à tous les deux, vous
êtes... Samuel est passionné, il n'arrêtait pas de faire des photos, il a un super Leica, et puis du coup, voilà, on a pu échanger là-dessus. Alors, si on peut trouver des points communs.
Quels sont vos genres à vous, plus spécifiquement en photographie, de ce que vous pratiquez, ce que vous aimez voir, parce que ça peut être un peu différent.
Ben, j'aime aller voir des photos. C'est vrai que j'ai un accès à la photographie qui me fait plaisir. J'ai l'impression qu'elle est en effet accessible à tous. Que tu peux aller voir une expo et te pâmer devant un point de vue, quelque chose que tu as vu. J'adore les histoires que racontait Eliot Erwitt, qui était vraiment mon photographe préféré, parce que justement, c'était des choses qui étaient prises à brûle pour point. J'ai cru longtemps que Doisneau faisait le même exercice, et pas du tout, c'était des mises en scène. Oui. D'ailleurs, cette photo qu'on connaît, Les Amants de l'Hôtel de Ville, eh bien, c'était une photo qui avait été mise en scène. J'ai toujours longtemps cru que c'était un accident, et pas du tout. Donc, c'est le noir et blanc.
Est-ce que ça change quelque chose à la beauté de la photo ?
Pas du tout, mais c'est l'histoire qu'on se fait. Ah bah. Il y a l'idée d'être assis, c'est ce que j'aime dans la photo, c'est d'être attentif à ce qui se passe et l'apprendre. C'est juste ça.
Non, mais
c'est
pour, alors, donc pourquoi poser des questions, à savoir est-ce qu'elle est vraie, est-ce qu'elle est fausse, et ne pas simplement profiter
c'est
de la photo.
C'est pas se poser des questions, c'est quand tu lis un article et tu t'accoutes toutes les choses que tu avais cru certifiées. Non, c'était pas comme ça. Ou sinon, non, je me laisse aller, j'ai plus d'accès qu'à la peinture.
L'émotion est la même. Parmi les fans de photos qui ne veulent que du noir et blanc, que de l'argentique, ou alors vous êtes ouvert aussi au numérique.
Oui, parlez-nous des clichés que vous faites, vous. Voilà.
Qui, moi
Moi
vous. Tous les deux, oui.
C'est vous, ça
me... Ça passe par l'iPhone, parce que, évidemment, l'iPhone, on l'a toujours sur soi. Ouais. un vrai photographe, il a tout le temps un appareil photo sur lui. Moi, je me promène pas avec. Et j'adore effectivement le numérique aujourd'hui, ce qui peut proposer en post-prod aussi, parce qu'on peut faire des trucs absolument incroyables. Ouais. Mais revenir à l'argentique, c'est vrai que c'est un pied. Incroyable.
On est parce trop rapide ça... pour l'argentique. Ça a vu le temps que ça nous prend.
Oui, non, mais c'est justement ça. C'est remettre la lenteur lumière, dans le processus. Oui. Et remettre la surprise. On ne sait pas quelle photo on a fait. Il faut attendre qu'elle se développe.
Oui,
pour...
Oui.
Et pour photographier des paysages, des êtres humains, des situations, pourquoi pas faire un reportage aussi? Qu'est-ce qui vous plaît?
Alors moi, j'adore photographier les gens que j'aime. Les gens que...
Les portraits,
qui sont prêts. Oui, les portraits.
D'accord.
Bon, j'avais une passion pour Richard Avedon, mais bon, ça, c'est... C'est des portraits qui sont en studio, donc c'est pas tout à fait pareil. J'adore la photographie de rue, mais j'aime tellement pas déranger les gens que c'est compliqué pour moi d'aller prendre des photos dans la rue, ou alors il faudrait que je me planque avec un téléobjectif et je trouve que ça fait voyeur. C'est pas mon truc, non. Donc c'est répréhensible, je crois, par la loi. Surtout quand tu photographies des petits...
Avec ton impère.
Non, je n'ai pas dit ça. J'ai une cour d'école juste en face de moi. Non, je peux rien faire.
Non, maternelle.
Et donc, voilà. Donc, c'est ça, des paysages, oui, des lumières. En fait, c'est les lumières.
Ce matin, il se pâmait devant la lumière qui
y a. La lumière qu'il y avait là, dans la salle à côté. Le soleil qui se lève, la lumière, c'est magique. C'est-à-dire que c'est des regards de peintre, quelque part.
C'est comment la lumière va être. Ça nous permet d'être attentif. La photo permet de juste mettre un temps. Longtemps, je me suis trimballée en tournée avec mon sac à dos, mes objectifs et tout. Puis j'étais gênée d'utiliser mon téléphone portable en disant, là, c'est plus de la photo. Et j'ai discuté avec Elliot Erwitt, qui m'a avoué que lui aussi faisait des photos. Donc ça enlève... il faudrait juste continuer à les imprimer, parce que le problème, c'est justement de les laisser dans son téléphone et de rien en faire.
Ouais. Est-ce que vous aimez être devant un objectif?
Non.
Et poser pour une photo.
Non, ça alors non, pas du tout. C'est pas du tout. Je sais pas quoi faire de ma bouche. Je sais pas quoi faire de mon corps. Je préfère être.
Je suis une mouette. Non, ce n'est pas ça.
Tchekhov. Ouais, j'ai des lettres. Voilà.
Autre question. 15 000 emplois sont menacés dans l'Hexagone. Ça concerne le milieu du cinéma et de la télévision à cause de l'intelligence artificielle.
C'est les traducteurs, les doubleurs.
Les doubleurs. Absolument. Ouais. 5 000 comédiens et tout le personnel ingénieur. Son studio de doublage, tout ce que ça peut générer comme écosystème. C'est une catastrophe annoncée, puisqu'en plus en France, on double énormément de films, puisque nous ne sommes pas la langue mondialement majoritaire. Vous avez beaucoup doublé, Samuel. George Clooney, Tommy Lee Jones dans Men in Black, Javier Bardem dans Skyfall.
Oh, je l'ai.
Robert Redford.
Qui, moi ?
Toi, Samuel, toi.
Daffy Duck.
Non, j'ai fait qu'un dessin animé.
Ah, c'est quoi ?
C'était Fourmise.
Là, j'adore.
C'était Christopher Walken qui faisait la voix.
C'est chic.
Prenons le cas Robert Redford, puisque...
Oh, Robert Redford.
Ouais.
Ouais. Oh là là.
Je sentais que c'était quand même...
J'ai rêvé que je rencontrais Paul Newman et Robert Redford. J'ai dit, mais putain, mais Paul Newman, il est mort, qu'est-ce qu'il fait là? Enfin bref.
Okay.
Sinon, ça va?
C'est le principe d'un rêve. C'est le principe d'un rêve. Hein.
Mais
c'est...
ils étaient beaux. Voilà,
on a senti... te connaissait.
Non, pas du tout.
Est-ce qu'on a la sensation de se rapprocher bizarrement de l'acteur qu'on double? C'est-à-dire qu'on est dans ses pas, bien sûr, on est dans une émotion qu'on doit essayer de reproduire en étant fidèle. Donc est-ce qu'on a l'impression d'être un peu en... si on est un peu fou, on se dit, ça y est, je suis Robert Redford.
Imaginez-vous, pendant une semaine, vous regardez le même film par petits morceaux tous les jours dans une salle obscure. Il y a un moment donné où ça s'imprime dans la rétine, ça s'imprime partout. Et on en rêve la nuit. Enfin, il nous accompagne de façon très, très différente. Donc, on a une proximité avec l'acteur qui est assez, assez extraordinaire.
J'espère que c'est pas tout le temps. Moi, je vais faire les schtroumpfs, merci bien. Je suis mal, mais ma vie est pourrie.
C'est pas moi qui l'ai dit.
J'espère que c'est le bleu, hein, parce que... Ouais. Non mais sinon c'est vrai, en faisant George Clooney depuis Ocean's Eleven, c'est vrai que je l'ai vu évoluer, je l'ai vu prendre des rôles, prendre des risques, faire des choses j'ai l'impression d'avoir participé quelque part à la progression.
Et vous apprenez quelque chose dans l'acting, dans le jeu même ou pas? Vous pensez que ça peut...
C'est toujours des... Moi, j'adore voir des gens bien jouer... Je suis admiratif la plupart du temps. Après, le travail, c'est d'essayer d'arriver à une hauteur qui soit qu'ils soient vraisemblables et surtout acceptables, quoi.
Les schtroumpfs, c'est vrai, vous avez
Oui, oui, c'est vrai. Donc, s'il faut s'identifier au personnage,
la schtroumpfette.
C'est pas la schtroumpfette, il y en a qu'une seule, donc sans doute je serais.
Gargamel.
Eh, mais méchant!
Mais je l'adore, Gargamel, c'est mon
personnage. Non, rattrapez-vous pas.
Azrael.
Azrael.
Virginie, vous signez l'adaptation d'Orgueil et Préjugés, ou presque, au théâtre Saint-Georges, et ce depuis la semaine dernière, c'est ça?
Ça a commencé le 24.
D'accord. Vous avez d'autres projets, d'autres envies
Un milliard d'envies. Je suis vraiment un peu hyperactive, hein, c'est vrai.
Et de retourner... Mais je n'ai rien dit, là.
Ouais, mais... Et de retourner faire un seul en scène ou voir votre propre film?
Alors, oui, bah, mon film, oui, ça y est, oui, je suis occupée. Là, je rends à chaque fois tous mes séquenciers. C'est un travail de longue haleine.
C'est l'adaptation de votre spectacle?
C'est sur le thème de mon spectacle, donc ça prend vie, ça se fait, ça prend beaucoup de temps. Donc, mais comme je suis contente, je trouve que c'est valorisant d'essayer les choses. Je le fais au fur et à mesure et je pense jamais à l'aboutissement, ce qui me permet de toujours être contente d'aller réécrire, rechanger, écouter. Je refais une autre adaptation parce que cet exercice m'a plu, une pièce new-yorkaise.
De Jane Austen. Ah, d'accord.
Ah non, un autre okay. auteur. Et puis, qu'est-ce que j'ai encore? Il y a un film belge qui sort en avril d'un réalisateur qui a décidé de tout prendre en main, que ce soit la production, tout, parce que même si notre pays est considéré comme un pays de comédie, tout, c'est toujours difficile de monter des choses dans la comédie. Donc là, voilà, on doit faire les choses. Parfait. Mais je crois que c'est l'idée de notre pays. C'est que comme on est scindé en deux langues, on est obligé d'être tout le temps créatif et justement d'essayer des choses.
Samuel Labarthe, t'as envie de remonter sur les planches? Ça vous...
Ah bah j'y suis, enfin j'y étais, j'arrête pas. Je suis dans la... Je viens de terminer l'adaptation de L'usage du monde de Nicolas Bouvier au Théâtre de Poche. Là, des textes de Sylvain Tesson sur Notre-Dame et son rapport à Notre-Dame qu'il a escaladé et qu'il a utilisé pour se remettre sur pied après sa chute. Donc c'est un beau spectacle qui a terminé le 29 hier.
Et dans cette année.
Et là dans cette année, je pars demain pour la Suisse, autre pays où il y a plusieurs langues, qui n'est peut-être pas aussi créatif que les Belges. Mais quand même, je le dis en passant. Et je vais poursuivre l'aventure Bouvier au théâtre de Carouge.
Parfait.
Et on recommence le tournage de Flair de famille finalement.
Mais oui.
C'est quand même important.
Mais il va bien falloir que vous en tourniez d'autres
épisodes. Et alors ce que je vais faire, c'est que sans doute, je vais faire une tourte au vomi, parce que ça m'a inspiré. Okay.
Flair de famille, ça sera le 7 février prochain sur France 2. Daniel, des excuses.
Oui, déjà, désolé pour le GIGN qui nous écoute et qui écoute l'émission, qui se sont dit, oh, ce serait tellement bien d'avoir deux profils d'enquêteurs comme Samuel et Virginie. On les enverra sur le terrain, et vu leur profil, c'est sûr que c'est eux qui se font tirer dessus par les forcenés. Pourquoi sur eux? Pour les faire taire, bien entendu. Désolé pour Prince, qui de là-haut nous écoute et qui s'est imaginé faire un concert avec Patrick Bruel, présenté par Nagui, avec Drucker et Bouvard dans le public, et qui se dit sûrement qu'il a bien fait de crever. Désolé pour tous nos auditeurs danois qui se sont sentis humiliés ce matin quand Tanguy a laissé croire que la seule activité au Danemark, c'était de chercher des flaques de vomi. Alors, j'ai cherché sur Internet les autres activités et loisirs accessibles au Danemark et... Non, c'est la seule activité, c'est la chasse au vomi. Désolé enfin pour Robert Redford et Paul Newman qui nous écoutent et qui m'ont appelé il y a deux minutes pour me dire, dis donc Danny, il serait pas un peu chelou Samy Labarthe arrivé de nous comme ça? C'est bien le gars qui prend des photos de la cour de récréation en bonne tenue. Est-ce que tu pourras l'aiguiller sur Drucker et Bouvard?
Merci Virginia, merci Samuel Labarthe, merci tout le monde, bonne journée. On se retrouve demain avec Lilou Fogli et Clovis Cornillac. Belle journée sur Inter. Ciao.